Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis. Il est de certaines discussions comme de certains événements. Elles modifient le cours des choses, d'une vie, d'une relation. Elles sont difficiles parce qu'elles font advenir des faits qui, tant qu'ils sont tus, pourraient être niés, ignorés. Elles sont difficiles parce qu'en rendant un événement réel, un désir de rupture, une maladie, un départ, elles vont créer un espace nouveau, altérer l'univers de l'autre auquel on l'annonce. Et il faudra vivre avec ces altérations, qui en retour impliqueront une transformation de soi. Les discussions difficiles le sont parce que l'on sait bien que ce sont bien plus que des discussions. Elles sont le seuil de mondes nouveaux. C'est ce que nous explorons dans cette mini-série. Le premier épisode est de Jérôme Massella. Je suis Charlotte Pudlowski. Bienvenue dans Passage.
D'un coup, je lui ai balancé comme un gros sac. C'était très chaotique, j'ai beaucoup pleuré.
Comme s'il avait un poids sur ses épaules qui relâchait tout d'un coup, mais un petit peu comme tu relâches la pression, comme de l'apaisement. Et en fait, t'as tous les nerfs, toutes les larmes qui tombent et je l'ai senti comme ça.
Mais ça m'a fait beaucoup de bien de le vivre de cette manière-là. C'est-à-dire que pour la première fois, je ne me suis pas méfié de sa réaction. Il avait le droit de réagir comme il voulait. J'avais peut-être peur qu'il s'en aille, mais je ne me suis pas préoccupé de comment est-ce qu'il allait réagir. C'est-à-dire que je lui ai fait confiance.
Et du coup, ça m'a rassuré parce que, ok, il m'a dit un truc, là il m'a partagé quelque chose qui est de l'ordre du plus intime. Il m'a donné un petit peu accès à lui, quoi.
En 2005, j'ai 18 ans et je suis au lycée à Nice. Je rencontre un garçon dont je tombe amoureux, qui tombe amoureux de moi, mais en même temps, je sais qu'il est hétérosexuel et je vois en fait qu'il n'accepte pas ce qu'on est en train de vivre. Pendant 5 ans, c'est chaotique et j'en baffe parce qu'il y a ces allers-retours, donc c'est-à-dire que c'est un garçon qui est là et puis à un moment, il s'en va, il redisparaît pendant 2 ans. Moi, pendant 2 ans, je l'attends. Il revient, puis il repart et en même temps, c'est très passionnel, mais c'est très destructeur pour moi parce que je me retrouve isolé et que je sais pas trop ce qui se passe. Et en même temps, c'est très fort. Il y a la grosse rupture au bout de 5 ans, donc je suis dans un état qui est pitoyable. Je me retrouve plus. Je suis complètement perdu. Et Montréal, c'est un peu ma porte de secours à ce moment-là. C'est le fait de dire, voilà, je reprends à zéro, je fais un nouveau départ, je reconstruis ma vie. Et donc, je pars comme ça, dans cette optique-là. Arrivé à Montréal, je me lève et en fait, là, je m'effondre et j'arrive plus à marcher. Je vais voir un médecin à Montréal, mais c'est hyper compliqué. C'est des box un peu chelous. On tire un ticket, on attend des heures. On voit un médecin qui nous reçoit 3 minutes. Moi, je me retrouve avec $150 de médicaments que je sais même pas à quoi ça sert. Et je sens en plus que c'est pas censé par rapport à aux symptômes que j'ai. Donc, j'arrive à avoir mon médecin français en téléconsultation sur WhatsApp, qui, lui, pense que j'ai une méningite, et me fait rapatrier en urgence en France. Je sais pas, moi, ce que j'imaginais, c'était un truc dans 3 mois, vous êtes mort, quoi. Je m'attendais à ça. Donc là, je suis rentré à Nice. J'ai fait des analyses au laboratoire. Le laboratoire me rappelle assez rapidement en me disant « c'est extrêmement grave, ça demande un traitement d'urgence, reprends de suite rendez-vous avec ton médecin ». On se retrouve quelques heures plus tard à l'hôpital, Pasteur 1 à l'époque, c'est la nuit quoi, donc le service est fermé, il fait noir, on est dans un couloir assis sur quelques chaises qu'on a posées là, face à nous il y a une porte en verre et derrière il y a une médecin d'ORL qu'on connaît pas, qui nous connaît pas, qui n'est pas du tout infectiologue, donc qui n'est pas du tout formée à ça, et on la voit au téléphone, ça dure bien une heure ou deux parce que je pense qu'elle se fait former sur le tard, et puis à un moment, vient le moment où elle nous invite à rentrer. Je suis face à elle. Ce qu'elle me dit, c'est « vous êtes séropositif au VIH, mais vous inquiétez pas, il existe des traitements, il existe des solutions ». Moi, je pensais que j'étais mort. Je pensais qu'on allait me dire « dans quelques semaines, il vous reste quelques mois à vivre, c'est fini, quoi ». À ce moment-là, en 2010, j'ai 21 ans. J'ai quand même pris les devants, parce qu'on n'est jamais sûr par rapport à ces périodes. J'ai répertorié toutes les relations que j'ai pu avoir 2 ans avant mon infection, ce qui était absurde parce qu'en plus j'étais une primo-infection, donc c'était pas possible. Mais moi j'étais quelqu'un qui était très effrayé de faire du mal aux autres. Donc j'ai pris toutes les relations que j'ai pu avoir, même sans sexualité, dans les 2 ans, et j'en ai parlé à tous ces gens-là. Et ça a été très très violent. Entre les gens qui te répondent pas, les gens qui t'insultent, les gens qui partent dans tous les sens. Il faut savoir que quand on est séropositif, la seule chose qu'on nous dit, c'est n'en parler à personne. Et on se retrouve avec ce choix de dire soit j'appelle et je suis grillé et mort socialement parce que tout le monde va répéter que j'ai le sida, que je le refile à tout le monde et que je suis un assassin, soit je dis rien et je m'enterre dans un silence et je vis tout seul.
Alors en 2005, j'ai 11 ans, je rentre au collège Frédéric Mistral à Nice. Les garçons, il y a une forme d'intérêt, mais un petit peu caché. Je passe mon bac en 2014, à 18 ans, à Nice toujours. Alors moi, ma vie de gay, c'est pas la vie de gay que j'espérais dans le fantasme où tous mes amis sont hétérosexuels, j'avais pas d'amis gays. La seule approche que j'avais du milieu gay, c'était les sites de rencontres.
Nice, c'est pas une grande ville. Et en fait, tout le monde se connaît. On est tous un peu l'ex de un tel, et donc les choses se répètent assez rapidement et très facilement. Donc je voulais pas que ça m'échappe, ça. Je voulais aussi que si ça se sache, c'était moi. Donc finalement, je l'ai dit sur Facebook. Voilà, au bout de 6 mois, j'ai mis un post qui disait « je suis séropositif, si je me sens seul, je sais que si je suis seul, c'est qu'il y a d'autres qui sont possiblement dans ce cas-là. Voilà, bah, voilà, sachez que voilà, on peut en parler. » J'ai reçu des mails de menaces, je recevais des messages anonymes sur les sites de rencontres où on me disait qu'il fallait que je crève, que j'étais un sale sidaïque. J'ai mis du temps à pouvoir ressortir en boîte parce que je me suis quand même isolé pendant pas mal de temps. Bah, soit c'était des regards, soit c'était « t'entends des sida pas très loin de toi », tu vois. Donc à un moment j'ai arrêté de sortir. À Nice à l'époque il y avait 2 boîtes de nuit, il y avait le club et le Blue Boys.
Je sais qu'il y a des bars gays, des boîtes gays à Nice, le Six, le Glam, je l'imagine en fait, j'ai pas vraiment conscience de ce qui se passe sur Nice, qui est vraiment une communauté ou quoi que ce soit. Je fais des études en hôtellerie-restauration, je m'oriente vers le métier de cuisinier et puis je fais un BTS toujours en hôtellerie-restauration. Mes relations amoureuses, bah, c'est des rencarts, c'est des one-shots, c'est des... J'ai pas le temps, quoi.
Les 10 années qui suivent, j'alterne entre des périodes d'une extrême solitude et des relations sérieuses. Alors, il va y avoir des garçons qui vont accepter d'avoir des relations sexuelles avec nous, mais qui nous font sentir qu'ils acceptent. Donc, on se retrouve dans une sorte de... comme s'il fallait remercier que les gens acceptent ça. Il y a celui qui va accepter de coucher avec nous, mais qui, toutes les 2 minutes, va se retirer pour vérifier que le préservatif craque pas. Il y a celui qui, pendant l'acte, va nous parler de son oncle qui est mort du sida et qui va nous parler pendant 2 heures de la mort. Il y a celui qui nous fait un discours de politique alors qu'on n'a rien demandé et qui va nous dire... Moi, j'ai eu un ex à un moment qui m'a dit, comme ça, l'air de rien, on est en train de prendre un café. Il me dit quand même, il faut que tu sois reconnaissant de tous ces gens qui paient des impôts, qui te permettent de vivre. Je rencontre, par exemple, un garçon où ça lui pose aucun problème, tout va bien, il s'en fout, et puis moi, ça me fait du bien. Mais à l'époque où je prenais pas de traitement, plusieurs fois, ça nous arrivait d'avoir des relations. Et lui, en fait, cherchait à avoir des relations non protégées. C'est pas qu'il cherchait, c'est qu'il s'en foutait. Donc, j'étais constamment en train de soit devoir me protéger de la violence de l'autre, soit protéger l'autre de ce virus. Et c'était en fait, toujours très compliqué. Il y a soit les gens qui sont dans le déni, soit les gens qui sont dans la paranoïa, soit les gens qui vont comme si de rien n'était. Et finalement, on vit un peu à leur rythme à eux. Et nous, ce qu'on vit... réellement à travers le VIH, on met des années pour comprendre réellement ce qui se passe. Et en fait, à un moment, on réalise que c'est pas son problème, que c'est beaucoup les autres qui se prennent la tête là-dessus et qui nous la prennent nous. Et c'est ça qui est dingue. La plupart des gens te disent que c'est violent pour eux parce qu'ils ne veulent pas faire le chemin que toi, tu as été obligé de faire.
Quand j'avais 18 ans, j'ai rencontré un garçon un été. Et donc, on s'était vu 3-4 fois. Et je me suis dit, j'ai 18 ans, j'aimerais bien avoir une relation. À cette époque-là, je travaillais beaucoup à Antibes. J'ai voulu allier les deux. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Et du coup, moi, entre 2016 et 2020, c'est vraiment tout boulot. Et en fait, le seul truc que j'ai à proposer, c'est des petits plans cul ou des one-shots. Et voilà, et en fait, c'est à partir du confinement où il y a eu un arrêt brutal de mon activité, de l'activité de tout le monde, et où je me suis rendu compte que il fallait que je... Ça fait maintenant 6-7 ans que je bosse comme un acharné, mais il y a la vie, quoi, à côté.
J'attendais qu'un garçon se préoccupe de moi, de qui j'étais, de ce que je vis dans ma vie. Ah, tu fais tes analyses, tu veux que je vienne avec toi, tu veux que je t'accompagne? Ah, est-ce que t'as bien pris tes médicaments ce soir? Juste ça.
Le désir d'une relation, je l'ai toujours eu.
Dès que je rencontrais quelqu'un, très vite, je lui disais que j'étais séropositif. Et j'ai compris, je pense vraiment que c'est le Covid qui me l'a fait comprendre, hein, que c'est moi qui avais peur de cette réaction. Donc du coup, je le disais très rapidement pour très vite voir si la personne avait des comportements violents, pour finalement faire en sorte que la relation s'arrête, si c'était le cas.
Mais je savais que je pouvais pas l'avoir parce que je pouvais pas l'offrir.
J'ai pas à prévenir quoi que ce soit. Prévenir quoi? Prévenir l'autre que j'ai quelque chose qui lui fait peur mais qui le concerne pas parce qu'il en est pas en danger. De la même manière qu'on demande pas à un homosexuel de prévenir qu'il est homo dans un vestiaire parce que les hétéros ont peur qu'ils fantasment sur eux.
Je vais sur les sites de rencontres avec non plus une optique de plan d'un soir mais possiblement une amitié ou faire des rencontres. Pourquoi pas avoir une relation durable?
Et surtout, je réalisais qu'il fallait ni que je me cache, mais il fallait pas non plus que j'avoue. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait que j'en parle naturellement.
À moi, si on enlève les petites amourettes de lycée et puis les petites relations qui vont durer 2-3 semaines, moi, j'ai rien.
Vis ta vie. Et si à un moment, la personne apprend que t'es séropositif et qu'elle réagit mal, réalise que c'est elle qui a un problème et que c'est pas toi. Après le premier confinement, donc du coup, je continue à aller sur les sites.
Et je reçois un message d'un garçon. J'ai 23 ans, il en a 31.
Il s'appelle Cyril.
Il s'appelle Nicolas.
Je me dis pas grand-chose, hein, parce que moi, dans ma tête, déjà, je veux pas de relation sérieuse. Je cherche pas non plus forcément une relation sexuelle. Je laisse les choses se faire.
Ça accroche pas mal. Il me dit, est-ce qu'on peut se voir ce soir? Je lui dis, écoute, ce soir, je suis avec des potes, mais si tu veux, on peut se voir demain. Il me dit « Ok, et tout, tu viendras à la maison, on se boit un café, on papote et tout. » Et je me dis « nickel !»
Il y a tellement eu de comportements chez des gens étonnants et violents que je pense qu'avec le temps, j'ai aussi appris à rien attendre. C'est-à-dire que je prends ce qu'il y a à prendre et je laisse les choses se faire. Donc j'ai pas d'attente, si ce n'est que passer un bon moment, en espérant que ça va être un bon moment.
Éventuellement, il peut se passer... plein de choses différentes, mais on part sur un café, donc on se dit que c'est quand même une approche un petit peu plus humaine.
Il a l'air d'être un garçon qui sait ce qu'il veut, qui sait qui il est, qui sait où il va, tout ce que, en fait, moi, je suis plus vraiment.
Je suis complètement novice dans les relations, je sais pas du tout comment ça se passe.
C'est un bloc rigide, alors que moi, je me vois un peu comme une sorte de nuage vaporeux, incertain.
Avec mon boulot, je suis pas quelqu'un, du coup, de très sociable, à rencontrer beaucoup de monde tout le temps. Donc c'est vrai que j'y vais avec... un petit peu d'appréhension, je sais pas comment ça va se passer, je le connais pas vraiment. C'est une petite épreuve parce que je sais que je parle pas beaucoup, donc c'est vrai qu'à un moment donné, si lui ne parle pas, j'ai pas envie qu'on se regarde dans le blanc des yeux et qu'on se dise ciao ou quoi, rentre chez toi. Il habite dans le Vieux-Nice, donc j'arrive, je monte. Quand on avait parlé sur l'appli de rencontre, il m'avait dit qu'il était designer. Je suis rentré dans l'appartement, c'était un grand loft, un grand, grand espace avec des couleurs chaleureuses. Il y a un piano. Lui, il avait juste ouvert la porte. Je rentre dans l'appartement, je vois une silhouette et là, c'est lui. On se fait la bise, on se présente un petit peu, on commence à parler. Il me dit « Bon, tu veux boire un café ?» Je lui dis « Oui ». Il me dit « Tu l'aimes comment ?» C'est l'été, donc du coup, on s'installe dans le jardin. Il fait bon, il fait chaud. Ça se passe bien. Il est très très beau, il est encore plus beau que sur les photos et c'est engageant quoi. Il me parle de sa vie, c'est intéressant. Je lui parle de la mienne. Bon, je sais pas si ça l'intéresse, mais mais je lui parle de la mienne en tout cas. Il me plaît. J'ai envie qu'il se passe quelque chose. Je vois que ça a l'air réciproque. Donc je me dis bon, potentiellement, il peut se passer quelque chose, quoi. C'est agréable et ouais, c'est nouveau. Au fil des minutes, on se rapproche un petit peu plus. On parle de plus en plus proche et puis on s'embrasse, quoi.
Il s'est endormi à la maison sur le pouf. Moi, j'avais pas ouvert le lit parce que j'ai un lit rabattable. Donc, il s'est retrouvé pendant des heures à dormir sur le pouf de manière très, très bizarre. Et finalement, après, on s'est mis dans le lit. Puis après, on se revoit une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, puis une cinquième fois. Pour la première fois aussi, je me dis, te prends pas la tête avec ça. Donc déjà, je me prenais plus la tête avec le si, quand il va l'apprendre, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais lui dire, est-ce qu'on va coucher ensemble, est-ce qu'on va pas coucher ensemble. Je me suis posé aucune question. Ça va faire à ce moment-là, peut-être entre 10 et 12 ans, que je suis séropositif, et c'est la première fois que je connais cette situation-là.
Un soir, on sort au resto, j'avais une petite pochette, et lui, il me donne son téléphone, et il était 21h, et le téléphone sonne. Donc du coup, je sors le téléphone, et puis instinctivement, je regarde pour lui donner, pensant que c'était quelqu'un qui l'appelait, et en fait, c'était une alarme à 21h où il y avait marqué « médicaments ». Je lui donne le téléphone, il me regarde, je le regarde, et puis on n'en parle pas, quoi.
Mais pas au sens que je n'en parle pas, c'est au sens que j'en ai pas encore parlé.
Si son téléphone avait sonné avec le nom d'un garçon, je lui aurais donné tout aussi simplement le téléphone en lui disant y a quelqu'un qui t'appelle, quoi. Je lui aurais pas demandé d'explication par rapport à ça.
Je me permets de faire les choses à mon rythme, parce que finalement c'est mon infection et c'est moi qui décide quand je le dis, comment et pourquoi je le dis.
Le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai vu l'alarme médicament, je me suis dit, ça doit être pour la PrEP. J'avais peut-être déjà anticipé que c'était un truc par rapport au VIH.
Et surtout, cette fois-là, je vais le dire pour moi.
Pendant un mois et demi, on se voit un maximum. Donc on sort, on va boire des verres, on fait des activités.
Lui, il travaille beaucoup, donc on se voit pendant ses repos. Je remarque en tout cas qu'on se voit, dès qu'il a un repos, on se voit. Donc je sais que sa vie à lui, c'est travail et notre relation.
Je me dis pas que je suis amoureux, mais on est sur la voie de... On peut construire quelque chose. Un jour, il a reçu un appel de sa sœur, et il est au téléphone, il dit « Oui, on fait ça. » Et sa sœur, elle lui dit « Mais c'est qui, on ?» Et là, il dit « Bon, je t'expliquerai. » Il raccroche. Et moi, je le regarde et je lui dis, et du coup, on est quoi ? Oh, je sais pas, il a fallu une petite semaine pour se dire qu'on était ensemble, quoi.
Et puis, au bout de 2 mois, on a notre premier rapport qui n'est pas protégé. Le rapport non protégé, je l'associe à une relation sérieuse. Et c'est parce qu'il y a eu, du coup, la relation sérieuse que je me suis dit, là, il va falloir que je lui en parle. C'est pas que je dois lui dire, c'est que j'ai envie de lui dire. J'ai envie de lui dire parce que moi, j'ai envie. Par contre, c'est la première fois que je me retrouve dans le problème inverse. Je lui dis pas... pour prendre soin de la peur de l'autre et savoir comment il va réagir, je lui dis parce que moi j'ai envie et que c'est important, et que du coup j'ai envie qu'il réagisse bien, mais je sais pas comment il va réagir. Donc là je me retrouve dans une situation qui est hyper angoissante, et ça fait 2 mois qu'on se connaît, donc c'est d'autant plus important, et puis là je réalise qu'en fait il est important pour moi, que j'ai de l'attachement, qu'en fait depuis 2 mois il se trame une relation avec des émotions qui se construisent. Pendant 1 semaine, j'ai tâtonné. Je le fais maintenant, là c'est compliqué, j'aimerais parler, là je vois que j'arrive pas, et je vois en fait à un moment que je suis bloqué partout et que j'arrive pas à percer et à trouver le bon moyen. Par exemple, on est sur le pouf, on regarde un film, et là où quelques jours avant, je aurais pu être dans le moment présent avec lui en train de faire des câlins, là je suis à côté, un peu plus droit, en train de fumer une cigarette, les yeux en l'air, comme si j'étais en train de réfléchir, à me dire qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire. Donc préoccupé, je pense que j'avais l'air préoccupé en fait.
J'ai pas senti le comportement bizarre. J'ai pas ressenti une distance. Il y avait la même proximité, même s'il y avait des petits moments où il était pas très connecté.
Donc au bout d'une semaine, quand j'ai vu que j'ai un peu tout essayé et qu'en fait, ça fait suffisamment de temps pour que j'ai un comportement chelou pour qu'il se doute de quelque chose, j'envoie un texto en lui disant...
Quand tu finis le travail, il faut qu'on parle.
Je peux plus faire marche arrière le moment où j'ai fait ce message-là. Voilà. Ou alors ça va me forcer à mentir, tu vas sortir un bobard. Il m'a dit oui.
Ouais, c'est une rupture, ouais. Bon, ok, il va me quitter, c'est terminé. Il y a peut-être quelque chose dans mon comportement qui lui a pas plu. C'est pas impossible qu'il se soit remis avec son ex, qu'il ait rencontré quelqu'un au même moment.
S'il me quitte, il me quitte. Mais je souffrirai.
ça me fait quelque chose parce que tout se passe bien en fait. Et du coup, je me dis, bah ouais, ok, mais par contre, j'ai besoin d'explications parce que moi, j'ai l'impression que tout se passe bien. Je finis le travail, il est 14h30, je prends la voiture, je me gare, je viens chez lui. Il m'ouvre la porte, il me parle pas, il me sourit pas.
Je suis complètement affolé parce que je sais pas comment il va réagir, je sais pas comment je vais réagir, je sais pas ce que je dois dire, comment je dois le formuler.
Très froid, très... je me dis, ok, bon, c'est ça, il va me quitter.
Je sais en plus que quand il va entendre VIH, sûrement il va avoir très peur.
C'est pas, je le reconnais pas, mais c'est très fermé.
C'est éprouvant quand tu tiens aux gens. Et qu'en fait, ça peut pas ne pas être éprouvant. C'est-à-dire que c'est pas parce que politiquement t'as décidé que t'allais agir, que t'as plus d'émotions et que tu vis plus cette difficulté-là. En fait, c'est normal. En fait, c'est dur. On se met sur la terrasse, en fait, dans le jardin.
Où tout avait commencé. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a ?
Donc il va bien falloir que je parle.
Et là, il hésite un petit peu à parler. Et puis, au bout d'un moment, il me sort comme ça. Je suis séropositif. Moi, dans ma tête, de suite, je me dis « Ah ok, on s'est pas protégé. » Premier truc qui me vient à la tête, c'est « Ok, je suis mort. »
Je lui dis toutes les violences que j'ai subies, que j'ai très peur de sa réaction, que je sais que les gens sont pas... Enfin, c'est un gros bordel. Ça me fait du bien parce que pour la première fois, c'est moi qui dégueule. Et c'est ça qui m'a fait aussi du bien. C'est que pour la première fois, c'était dur, mais c'était dur pour moi parce qu'en fait, c'est difficile pour moi et pas pour l'autre.
Il a vu ma réaction, un petit choc du corps, et je dis « Ok. »
Je ressens rien du tout à ce moment-là de lui, je suis complètement en panique.
En fait, j'ai eu deux trucs. Je me suis dit « Ok, je suis mort » et après je me suis dit « Ok, il est mort. »
Ça faisait 12 ans que mon VIH était important pour les autres et que chaque fois j'étais en train de me dire pour l'autre, ce que l'autre vit, ce que l'autre va se dire. Pour la première fois, ça a été mon annonce, ma violence, mes difficultés. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est toujours violent de dire qu'on est séropositif aujourd'hui, d'autant plus quand les personnes sont importantes, mais que c'est notre violence à nous.
Puis après, il m'a raconté son histoire.
Et je m'effondre et puis je me mets à pleurer. Je crois que j'arrive à me dépasser, à lui parler du traitement, à lui dire que je suis indétectable, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de danger.
Et qu'il ne transmettait pas le VIH. Dans chaque larme qui tombait, je voyais toutes les années de souffrance qu'il avait pu vivre. J'ai arrêté, enfin, j'ai plus pensé à moi, je suis allé le voir, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai embrassé, j'ai essayé de le réconforter, je lui ai dit « mais voilà, mais tout va bien ». Et puis ben, on a discuté, il s'est apaisé. Si tu le gères depuis 10 ans, je vais bien pouvoir le gérer pendant 10 ans aussi. C'est pas si grave, parce que je m'attendais à avoir une rupture totale. Donc du coup, je me suis dit, bon, ok. Et après, quand je suis reparti, bah, je me suis posé des questions. Je voulais vérifier si ce qu'il me disait, c'était vrai. La PrEP, le VIH et tout, moi, c'était des trucs que je connaissais pas du tout. Ça a pris une journée pour avoir tous les renseignements, pour répondre à toutes les questions que je me posais. Et puis voilà, on n'a pas fait comme si de rien n'était, mais on a continué notre relation comme elle avait commencé. J'ai pas du tout eu un sentiment de trahison ou de mensonge.
Non, je pense que c'est la meilleure des... Non, je pense que ça a été la meilleure des choses. Je pense que c'est plutôt pendant 10 ans que j'ai pas eu le bon comportement.
C'était vraiment de l'ordre de la confidence. Il m'avouait pas quelque chose. Il me disait un truc qui lui appartenait à son intimité la plus profonde, quoi. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que c'était vraiment sérieux, qu'on était engagé dans une vraie relation, et c'est à partir de ce moment-là où il y a de l'amour qui s'est créé entre nous. Il m'a annoncé ça en août, en septembre-octobre, je crois que j'ai emménagé chez lui. Ça fait un an et demi, et puis bah, tout va bien. C'était un moment difficile pour lui. Moi, ça m'a fait un petit choc, mais j'étais rassuré. Le moment le plus difficile, ça a été le texto.
Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Jérôme Massella, Charles de Cilia en a fait la réalisation et le mix, Louise Emerlé a coordonné la production de l'épisode, Maureen Wilson et Mélissa Bounois en ont supervisé l'éditorial et la production. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Passage est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à hello@louismedia.com. Et avant que vous ne partiez, j'en profite pour vous dire qu'on a ouvert un répondeur téléphonique. On aimerait vous entendre davantage et partager vos histoires de boulot dans notre podcast Travail en cours. Alors si vous avez des histoires rocambolesques, des questionnements sur votre rapport au travail, des théories sur le monde de l'entreprise, vous pouvez nous envoyer vos notes vocales sur hello@louismedia.com ou directement sur notre numéro Louis 06 95 77 27 18. À très vite. So, so, so.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Avant de commencer votre épisode, j'aimerais vous parler du film Rosalie, qui est actuellement au cinéma. Un film réalisé par Stéphanie Di Giusto, qui présente le destin de Rosalie, une jeune femme qui se découvre et s'émancipe dans la France très puritaine de 1870. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Rosalie est une femme à barbe, un trait physique quelque peu particulier, surtout pour les mœurs de l'époque. On vit avec Rosalie sa quête d'amour et de liberté face à une société qui ne l'accepte pas à cause de sa différence. Le film réunit pour la première fois Nadia Tereskevitch et Benoît Maginel, tous les deux très touchants dans cette histoire d'amour complexe, mais très belle. Alors n'attendez plus pour aller voir Rosalie au cinéma dès maintenant et découvrir ce film qui célèbre l'acceptation de soi et des autres. Vous pouvez aussi découvrir l'interview de Nadia Tereskevitch, le personnage principal du film, dans notre dernier épisode de Pépite. À très vite.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.